Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 11 novembre. Bonjour à tous. Bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les élections législatives en Espagne. Le Parlement n'a jamais été aussi fragmenté avec un parti socialiste toujours en tête, mais sans majorité pour gouverner. Et une extrême droite en hausse. Nous serons à Madrid dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
L'annonce de la démission d'Evo Morales en Bolivie, aussitôt suivie de scènes de pillage. Nous serons à La Paz. Quand les talents de Renault partent chez PSA, les cérémonies du 11 novembre avec la petite histoire du clairon qui a sonné l'armistice dans les Ardennes et puis la voile avec le récit d'un duo au soleil au fin fond du poteau noir.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Le temps est en état de mort cérébrale avec cette petite phrase répétée plusieurs fois dans l'entretien qu'il a donné à The Economist. Emmanuel Macron a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, quitte à froisser nos alliés. Le président est-il allé trop loin? On pose la question à la ministre des Armées. Florence Parly sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le magistrat Antoine Garapon et Arthur Desnouveau, président de l'association Life for Paris. Ils publient ensemble Victimes et Après chez Gallimard dans la collection Tract. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Depuis 4 ans et l'émergence de nouveaux partis qui ont bousculé l'alternance gauche-droite, l'Espagne a bien du mal à trouver un gouvernement stable. Le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, qui n'avait pas réussi à former une coalition après le scrutin d'avril dernier, espérait, avec ses nouvelles élections législatives organisées hier, trouver une majorité. Résultat, l'équation s'avère toujours aussi difficile à résoudre. 120 sièges pour les socialistes, 88 pour la droite conservatrice, 52 pour l'extrême droite qui fait plus que doubler son score. Et 26 pour le parti de la gauche radicale Podemos. Isabelle Labéry est l'envoyée spéciale de France Inter à Madrid. Reportage.
La situation est toujours aussi inextricable et Pedro Sanchez toujours aussi optimiste.
Je dois vous dire que je m'y engage. Cette fois, quoi qu'il arrive, nous aurons un gouvernement progressiste qui sera dirigé par le Parti Socialiste. Et nous allons débloquer la situation politique dans ce pays.
La gauche radicale n'a pas attendu très longtemps pour proposer ses services. Il est quand même moins dangereux d'avoir des ministres Podemos dans son gouvernement, dit Pablo Iglesias, que 50 députés d'extrême droite au Parlement.
Nous sommes prêts, dès demain, à discuter d'un gouvernement de coalition. C'est la meilleure façon de freiner l'envolée de l'extrême droite, devenue l'une des plus puissantes en Europe.
Vox, l'ennemi commun, pourrait donc inciter les deux formations à faire taire leurs divergences. Mais pour atteindre la majorité absolue, il leur faudra trouver d'autres soutiens et ce sera le début d'une longue chasse aux voix, car avec 17 partis différents, ce Parlement est le plus fragmenté de l'histoire de la démocratie espagnole. Barcelone, Isabelle Labéry, France Inter.
Qui tient les rênes du pouvoir ce matin en Bolivie? Evo Morales a démissionné après une réélection très contestée et 3 semaines de violentes manifestations. Evo Morales qui dénonce un coup d'état civique et affirme à présent qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui. L'annonce de sa démission a été suivie de scènes de liesse mais aussi de pillages et de violences. Reportage dans les rues de La Paz d'Alice Campagnol.
Des scènes de liesse, des chants, des pleurs de joie, c'est ce que l'on pouvait voir partout dans les rues de La Paz hier soir. Les opposants fêtaient le départ de celui qui les a gouvernés pendant plus de 13 ans. À 17h exactement, après des violences causées par des citoyens de l'opposition et des défections au sein de son gouvernement, Evo Morales a annoncé à la télévision d'État sa décision de quitter le pouvoir.
À mes frères et sœurs boliviens et au monde entier, j'annonce que je quitte la présidence de la Bolivie. Il faut que le peuple bolivien sache, ainsi que la communauté internationale, que des groupes oligarchiques conspirent contre la démocratie.
Immédiatement, des milliers de citoyens sont sortis de chez eux pour crier victoire. Beaucoup considèrent être désormais libérés.
Le gouvernement est resté au pouvoir plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mais grâce à l'unité de tous les Boliviens, aujourd'hui nous pouvons crier « La Bolivie est libre ».
Du côté des partisans d'Evo Morales, ils ont laissé éclater leur colère, notamment dans la ville de El Alto, bastion du parti de l'ancien gouvernement. Ils s'en sont pris à des bâtiments publics, entre autres. Que va-t-il se passer maintenant en Bolivie? La présidente du Sénat, qui aurait dû assumer le pouvoir après les démissions en chaîne, a également abandonné son poste. Pour le moment, personne personnes ne dirigent le pays et hier soir, des pillages ont eu lieu dans la ville de La Paz. La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
Et autre inquiétude ce matin, des manifestants cagoulés occupent l'ambassade du Venezuela à La Paz. Les diplomates sont retranchés dans une salle du bâtiment. Le Venezuela, l'Argentine et Cuba dénoncent un coup d'État. Le Mexique, de son côté, a offert l'asile politique à Evo Morales. Autre contestation à Hong Kong, où la police a de nouveau tiré à balles réelles sur des manifestants. Ce matin, il y a au moins un blessé. 24e week-end de contestation contre la tutelle chinoise. De nombreuses universités resteront fermées aujourd'hui en raison des difficultés de transport. La police anti émeute s'est en effet déployée à proximité des stations de métro. Et puis les États-Unis appellent ce matin à l'arrêt des violences contre les manifestants et à la tenue d'élections en Irak. 319 personnes sont mortes depuis le début du mouvement le 1er octobre, dénonçant un pouvoir corrompu et incompétent.
Il est 7h06, Agnès. La fuite des cerveaux chez Renault, un an après l'arrestation de Carlos Ghosn.
Et le phénomène s'est encore accéléré ces derniers mois. Plusieurs hauts dirigeants de la marque aux losanges sont partis chez PSA, qui engrange les succès, avec notamment la fusion toute récente avec Fiat. De quoi, Maxime Depp, susciter l'inquiétude des syndicats de Renault.
De toute façon, l'entreprise est une passoire depuis des années. Quand vous employez des intérimaires à l'appel dans vos usines, que les prestataires défilent à tous les étages et qu'ils repartent au final là où se trouve l'emploi, chez PSA ou encore chez Toyota, il n'y a plus de secret industriel ou autre, se désole une source en interne. Alors si en plus les dirigeants s'en vont, et le directeur de l'Alliance, et la spécialiste de la voiture électrique, coup sur coup en à peine 2 mois, que l'on découvre de surcroît que leur contrat ne prévoyait pas de clause de non-concurrence, ça interroge. Surtout, tout ça intervient dans un contexte compliqué chez Renault, prévision de chiffre d'affaires en baisse pour 2019, manque d'ambition pour les syndicats après l'abandon de plusieurs modèles, le non-renouvellement de l'Espace, du Talisman, l'arrêt de fabrication de la Scénic. Les ingénieurs en France n'ont plus les moyens et le temps nécessaires pour travailler sur un modèle de bout en bout, déplore un représentant syndical. On n'est clairement pas dans une bonne passe, embraye un autre pour qui l'urgence est de reparler stratégie au plus vite pour stopper l'hémorragie.
La fuite des talents chez Renault, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. En ce 11 novembre, Emmanuel Macron doit inaugurer un monument pour rendre hommage aux 549 militaires morts pour la France lors d'opérations extérieures depuis 1963. L'armée parle de la 4e génération du feu. Et ce matin, c'est à la première génération du feu que le chef de l'État va rendre hommage. 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la flamme sera ainsi ravivée sur la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Autre symbole de cet armistice, le clairon d'Octave Delaluc, un poilu originaire de la Beauce, qui sonna la fin des combats sur le front des Ardennes. Récit signé François Guéroux.
Le 11 novembre 1918 à 11h, Octave Delaluc sonne l'armistice à Vrigne-Meuse dans les Ardennes. Cet ouvrier agricole de 29 ans, né à Intréville, un petit village de Eure-et-Loir près de Toury, avait emmené au front son propre clairon. Clairon qu'on peut voir désormais au mémorial de l'armistice à Compiègne. Dominique Valenbois est l'un des responsables du musée.
Voir revenir le clairon du soldat Delaluc au musée, c'était important pour nous. Des clairons qui ont sonné l'armistice, il y en a eu beaucoup dans tous les régiments, mais il faut savoir l'authenticité. Là, on en a la preuve. C'était Delaluc qui avait son clairon. On est sûr que c'est un clairon qui a sonné l'armistice.
Ce clairon n'a en fait été retrouvé officiellement qu'il y a 4 ans par des historiens de Chartres dans un grenier à Gomerville, un autre village beauceron. L'instrument a quelques bosselures, il est un peu endommagé, mais pas tant que ça, souligne Dominique Valenbois.
Oh, il est en bon état, il est en état d'usage, comme on dit. Vous savez, les soldats, ils avaient autre chose à faire qu'à soigner leur clairon, et donc il a été utilisé. C'est un clairon qui a fait la guerre.
Hasard de l'histoire, Octave Delaluc appartenait au 415e régiment d'infanterie, le même que celui d'Augustin Trébuchon, considéré comme le dernier soldat mort au combat lors de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918 à 10h50.
Et si vous voulez voir à quoi ressemble ce clairon, rendez-vous sur le site francebleu.fr.
Mettre un terme à l'essentiel des usages du glyphosate au 1er janvier 2001 reste l'objectif du gouvernement.
Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, l'a confirmé hier sur notre antenne, mais ce ne sera pas sans mal, affirme la mission parlementaire chargée de travailler sur le plan de sortie du glyphosate et qui doit rendre son rapport demain. Selon l'AFP, qui a eu copie de ce rapport, le calendrier sera difficile à tenir partout en l'état et aura un coût pour les agriculteurs. Sophie Bécherel.
En finir avec le flou et dire clairement quels agriculteurs devront se passer du glyphosate au 1er janvier 2021 et lesquels auront une dérogation, voilà résumé la position de la mission parlementaire. Et selon ses membres, c'est avant juin de l'année prochaine qu'il faut informer les filières. Selon le document dont nos confrères de l'AFP ont eu connaissance, pour certains, se passer du glyphosate ne sera pas possible, sous peine de mettre la clé sous la porte. Les parlementaires ont calculé le surcoût de la transition, frais de main-d'œuvre, frais de carburant, puisqu'il faudra passer le tracteur plus souvent, sans compter l'usage d'autres produits que le glyphosate, au total 50 à 150 euros de plus par hectare cultivé. Le rapport déplore par ailleurs le manque de données lisibles sur l'usage des pesticides, en tout cas pour 2018. Il recommande la création d'une plateforme qui centraliserait des données, alors que la France a décidé de diminuer d'un quart l'usage des produits phytosanitaires entre 2016 et 2020. Les derniers chiffres disponibles, 2017, montraient une stagnation des ventes d'herbicides depuis 8 ans.
Ils échouent au gré des marées sur le littoral atlantique. Depuis plusieurs semaines, des paquets de cocaïne ont ainsi été retrouvés des Landes à la Bretagne. 763 kilos à ce jour, d'une cocaïne pure à 83%. Très dangereuse pour la santé, alertent les autorités. En cas de découverte, il convient d'appeler immédiatement le 17 sans toucher les ballots. Dans un stade Vélodrome plein à craquer, dans une ambiance tendue, Marseille s'est imposé face à Lyon hier 2-1. Grâce à un doublé de Dimitri Payet, l'OM qui devient le dauphin du Paris Saint-Germain à l'issue de la 13e journée de Ligue 1. Loin du chaudron marseillais, un duo au soleil dans le poteau noir au nord de l'Équateur. C'est dans cette zone que Jérémy Bayou et Christopher Pratt se sont retrouvés coincés lors de la Transat Jacques Vabre. Les deux navigateurs en tête de la course et largement favoris se sont donc retrouvés bloqués dans cette zone tant redoutée des marins. Ils ont finalement terminé troisième et ont accepté de raconter ces terribles heures à Fabrice Rigobert.
Imaginez un huis clos 72 heures durant entre deux marins sur une plateforme forme de 18 mètres, scotché à la mer, sans vent, dans une chaleur étouffante, avec des voiles qui claquent, un bateau qui n'avance plus alors qu'il était en première position et des concurrents qui en profitent pour doubler en paquet par l'est. De quoi rendre fou Christopher Pratt, co-skipper de Charal.
On en a pleuré, chacun notre tour. On passait des nuits, des heures sur le pont à virer de bord, empanner, revirer de bord. Pas de vent, de la pluie, puis 30 nœuds, puis pas de vent, de la pluie. Le manège infernal qui s'arrêtait plus. Ah, c'était cauchemardesque, on voulait juste sortir de là.
Sur le bateau le plus rapide de la flotte, les deux hommes ont décidé de ne plus regarder le classement pour arrêter de se faire du mal. Le duo aurait pu se déchirer, il n'en a rien été, malgré la tension, souligne fièrement Jérémy Bayou.
Ça a été trois jours insupportables. Quand tu es en tête avec plus de 100 000 d'avance et que tu vois que ça t'échappe, tu passes par tous les états. C'est la catastrophe de ta vie, donc c'est hyper dur à vivre. Ce dont on est fier, c'est qu'on a un peu tapé sur le bateau, mais notre binôme a tenu bon, ça s'est pas collé des baffes. Et puis quand on est sorti du pot, on a montré qu'on valait mieux qu'une 5e ou 6e place.
L'année prochaine, Jérémy Bayou se souviendra de cet épisode. Il se plaît aussi à rappeler que dans une moindre mesure, Ramel Lecléache avait rencontré des difficultés dans le poteau noir un an avant son succès sur le Vendée Globe. Salvador de Bahia, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et rappelons que c'est le duo d'Alain Eliès qui s'est imposé après les 8000 km de course entre le Havre et Salvador de Bahia.
Merci Agnès Soubiran.